Pourquoi est-ce que je ne joue pas tout le temps?
Parce que vous avez une drôle de façon de jouer la comédie.
Mais qu'est-ce que je fais?
Vous en faites trop. Vous vous écoutez quand vous parlez, vous n'écoutez jamais celui qui vous parle. Vous entrez en scène beaucoup trop vite et vous sortez de scène beaucoup trop lentement. Cherchez à faire des effets qui ne sont pas dans vos rôles.
Ça peut pas faire de mal.
Mireille, ce n'est pas mal, mon petit, mais tu es un peu trop coquette. Tu es très jolie jambe, je t'en félicite, mais ton rôle n'est pas un rôle à jambes, c'est un rôle de sentiment. Il faut qu'on oublie les jambes.
Oui, maître.
Quant à toi, Pascani, tu joues mollement. Tu t'installes confortablement dans un métier où il n'y a pas de confort, le métier d'acteur.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal. L'acteur est un poète qui écrit sur le sable. Les deux termes sont exacts. On ne saurait dénier à l'acteur la qualité de poète ou de romancier, cela pour dire une qualité d'artiste comparable à celle d'un écrivain. Comme un écrivain, il puise en lui-même, dans sa mémoire, la matière de son art. Il compose un récit selon le personnage fictif proposé par le texte. Maître d'un jeu de l'heure, il ajoute et retranche, offre et retire. Il sculpte dans l'air son corps mouvant, et sa voix changeante. Mais aussi, c'est sur le sable. L'édifice ne dure pas longtemps, le vent et les vagues le recouvrent bientôt. Il ne demeure que dans la mémoire de ceux qui l'ont vu. À cause de cela même, il devient comme un événement de l'histoire. Nous nous souvenons des pièces de théâtre comme de ce qui nous est arrivé dans la vraie vie. Bienvenue dans « Ça peut pas faire de mal ». Aujourd'hui, cette émission est consacrée à l'art de l'acteur. Et évidemment, pour parler de l'art de l'acteur, j'ai demandé à Éric Genovese, mon collègue de la Comédie Française, de se joindre à moi pour lire des textes. Merci beaucoup, Éric, d'être là.
Merci à vous, Guillaume.
Pour commencer cette émission sur l'art de l'acteur, une petite anecdote rapportée par Giorgio Streller à propos de Brecht. Je me rappelle les heures qui passaient comme des minutes. Pour la première fois, au lieu de faire notre salut de braves petits Allemands, nous nous étreignions, timidement bien sûr, au moment où entre un groupe de jeunes gens avec des bérets basques, grimés, déguisés en intellectuels progressistes, brechtiens dogmatiques, avec la frange, tenant leur organon à la main, mieux à la main gauche. Et je me rappelle la façon dont Brecht démolit en quelques instants leur monde tranquille. Maître.
Dites-leur que je ne suis pas un maître.
Ici, dans le petit organon, vous dites que le théâtre épique...
Ce que je dis dans le petit organon a une importance relative. Ce sont des notes pour les autres. Ne vous y fiez pas trop, le théâtre se fait sur le plateau. Et puis, tout est encore à éclaircir. Ce qui compte, c'est l'expérience, l'expérimentation, la réalité à saisir.
Mais l'effet de distanciation et la ligne politique...
Oui, oui, d'accord, mais ce ne sont pas les paroles qui font le théâtre et l'histoire. Faites-le, le théâtre. Vivez-la, la politique. Vous pouvez même moins lire.
Les jeunes gens étaient anéantis. Brecht me faisait des clins d'œil derrière ses lunettes, tandis que je sortais sans savoir que je ne le reverrais plus.
Moi, je demande beaucoup aux acteurs, mais je donne aussi beaucoup.
Giorgio Streller.
Et surtout, je demande leur fantaisie, leur cœur, je demande la liberté d'inventer. Moi, je suis comme une caméra impitoyable qui cherche de se souvenir des images, des tons, des situations que l'acteur a inventées sur la scène et qu'il oublie parce qu'il a improvisé. Alors, je les stoppe dans ma mémoire et les jours après, je lui redonne en disant, tu as fait ça, tu te souviens toi de ça? Non, alors voyons. Voyons de rechercher ensemble. Qu'est-ce que toi, tu as fait?
À propos du métier de comédien, quelques notes toujours de Brecht. Comme le métier de comédien exige sans cesse une grande tension, il faut que le comédien sache comment se détendre. En tout temps, il évite la tension extrême et le relâchement total.
Simplement pour que le théâtre reste à ses yeux quelque chose de particulier, le comédien renonce à toute théâtralité dans le privé. Mais il ne renonce pas au style, qu'on le regarde faire ou non.
Son métier le soumet à deux tentations, s'isoler des autres ou se jeter à leur cou. Il faut résister aux deux tentations.
Son métier entraîne une autre tentation, la compassion envers soi-même. Sur scène, ne recherche-t-il pas, sans le savoir, la compassion même pour des vauriens ? Il résiste également à cette tentation.
Il lui faut prendre garde à n'être ni rapidement vulnérable, ni invulnérable.
Ce qui le tire d'affaire en bien des occasions, c'est l'art de l'observation, qu'il exerce constamment. Il observe en imitant, et il invente, pour ceux qu'il a observés, un comportement dans nombre de situations qu'il ne peut observer.
Il ne se préoccupe de lui-même que dans la mesure où il s'entraîne.
Il étudie constamment les lois qui régissent les comportements des hommes les uns envers les autres. La société est son commanditaire. Il l'étudie.
Il faut développer une oreille absolue pour l'accent de la vérité. Il ne se déguise que pour montrer la vérité.
Il ne se ferme à aucune joie ni à aucune souffrance. Il a besoin de ses sensations pour son travail, car il lui faut aspirer avant tout à rester un être humain.
Brecht rajoute quelques tendances générales que le comédien devrait combattre. Par exemple, se pousser vers le milieu de la scène.
Se détacher des groupes pour être seul.
Se rapprocher du personnage à qui l'on parle.
Regarder sans arrêt le personnage avec qui l'on parle.
Ne pas regarder le personnage avec qui l'on parle.
Se tenir toujours le long de la rampe.
En accélérant, se mettre à parler haut.
Au lieu de jouer une chose après l'autre, tirer une chose de l'autre.
Brouiller les traits de caractère contradictoires.
Ne pas approfondir les intentions de l'écrivain de théâtre.
Subordonner ses propres expériences et observations aux intentions présumées de l'écrivain de théâtre.
Tu connais cette écriture ?
Oui, c'est l'écriture de mon oncle.
Entrée des artistes de Marc Allégret avec Louis Jouvet.
Tu ne me demandes pas ce que contient cette lettre ?
Que contient cette lettre ?
10 fautes d'orthographe, 4 fautes de syntaxe et une protestation. Il veut que tu abandonnes le conservatoire et que tu reprennes les fers en main dans la boutique de ta tante. Ton oncle, il n'aime pas le théâtre, ton oncle ?
Il le déteste.
Nous avons tous les mêmes parents. Quand j'étais jeune, les miens ne voulaient pas admettre que j'étais un jeune premier amoureux. Et cependant, j'étais jeune, j'étais premier et j'étais amoureux.
Un autre très grand auteur et théoricien de théâtre, Zéami, du XIVe siècle japonais, qui a écrit « La tradition secrète du no ». En toute matière, si l'on parle de diversité des talents, on entend par là qu'il existe des talents innés. Il arrive que le degré le plus éminent ne puisse s'y mesurer. Toutefois, ce n'est là encore qu'un point de vue applicable à l'acteur habile, sans plus. En vérité, un acteur qui serait accompli dans ses facultés et dans ses ressources, comment et en quel domaine pourrait-il ne point réussir ? Cela dit, la raison des échecs est que des acteurs accomplis dans leurs facultés et dans leurs ressources, ils ne s'en trouvent pas même un entre 10 000. Je dis qu'ils ne s'en trouvent pas, c'est parce qu'à défaut de ressources, il y a la suffisance. L'habile a ses défauts, le malhabile a certainement aussi des qualités.
Dans ces conditions, les années passent et pourtant ses facultés ne s'élèvent point. C'est là précisément l'état d'esprit d'un malhabile. Cela dit, chez l'habile lui-même, s'il nourrit une vaine suffisance, les facultés déclineront. À plus forte raison que dire de la suffisance vaine chez un incapable. Méditez bien ceci. C'est en vous disant que l'habile est l'exemple du malhabile et le malhabile l'exemple de l'habile qu'il vous faut déployer vos efforts. S'emparer des qualités du malhabile et les intégrer dans le répertoire de l'habile, voilà le principe suprême. Le seul fait d'observer les défauts d'autrui, c'est déjà s'en faire un exemple. À plus forte raison que dire des qualités. Voilà ce qu'il faut entendre par « soyez dur à l'exercice », éviter la vanité prétentieuse.
Cela dit, nous avons dans notre école une maxime d'une portée universelle. N'oubliez pas vos débuts. En parlant de débuts, voici toujours de Zéami quelques remarques sur les exercices âge par âge. 7 ans.
Il ne convient pas tant d'enseigner en disant « ceci est bon, cela est mauvais ». Si on lui faisait des observations par trop appuyées, comme l'enfant, perdant courage, concevrait de l'éloignement pour le no, ses facultés resteraient désormais stationnaires. On ne lui laissera rien interpréter qui ne soit chant, ataraki ou danse. Les mimiques, tant soit peu complexes, fut-il capable de les interpréter, on se gardera de les lui enseigner.
À partir de 12 ou 13 ans, à partir de cet âge, la voix tend peu à peu à se fixer au ton normal. Comme c'est l'âge aussi de la compréhension du nous, on lui enseignera donc progressivement le répertoire. Et d'abord, avec son aspect enfantin, quoi qu'il interprète, il aura de la grâce. C'est un âge aussi où la voix est belle. Puisqu'il possède ces deux avantages, ses défauts passent dans l'ombre et ses qualités en paraissent d'autant plus épanouies. En règle générale, dans un sarugaku joué par un enfant, on ne lui laissera pas interpréter de mimiques trop minutieuses. Un tel spectacle est déplacé sur la scène et crée des conditions dans lesquelles ses facultés ne progressent point. À moins toutefois qu'il ne soit devenu réellement adroit, alors quoi qu'il fasse, il sera bon. À partir de 17 ou 18 ans,
comme le corps s'est allongé, son charme a disparu. L'époque est passée, celle de l'âge précédent, où tout lui était rendu facile par la beauté de sa voix et par son épanouissement physique. Et comme ses moyens se sont transformés du tout au tout, l'élève perd courage. Finalement, comme il lui semble que le public de son côté le trouve ridicule, il invoque sa gêne ou quelque autre prétexte et se laisse aller. Pour ce qui est des exercices de cet âge, dut-on se moquer de lui en le montrant du doigt, qu'il ne s'en occupe point, et qu'il exerce sa voix, en privé, soir et matin, dans le ton qui lui est accessible. Qu'en son cœur, il fasse lever une ferme résolution, sachant qu'il se trouve là au point critique de sa carrière, il engage tout l'avenir de sa vie.
À 24 ou 25 ans, c'est le moment où la voix est définitivement rétablie, où le corps est formé. Or, dans notre voix, nous avons deux atouts. Ce sont la voix et la tenue. L'une et l'autre sont formées à cet âge. C'est le moment où se constituent les facultés artistiques qui correspondent à la force de l'âge. Par conséquent, d'autres le voient-ils qui s'exclament « c'est un habile acteur qui s'est révélé là » et le voilà signalé à l'attention du public. Utile à faire à des artistes déjà confirmés, il paraîtra insolite par la fleur de l'instant présent. Et quand, pour une fois, il l'aura emporté dans un concours, les gens en feront grand cas. Et notre homme, de son côté, commencera à se prendre pour un habile. Cela, et j'insiste sur ce point, lui est pernicieux. Car ce n'est pas là la fleur authentique. C'est l'épanouissement de la jeunesse. C'est une fleur insolite qui, pour un instant, séduit les spectateurs. Un œil réellement exercé saura faire la distinction. À 34 ou 35 ans,
à cet âge, les facultés sont au point culminant de leur épanouissement. C'est maintenant, si ayant assimilé complètement ces remarques, l'on est devenu adroit, que l'on obtiendra à coup sûr la consécration publique et la renommée. Si par aventure à ce moment-là, la consécration publique laisse à désirer, si la renommée n'est pas à la mesure de ce que l'on escomptait, il faut se rendre à l'évidence que, quelque habile que l'on soit, l'on est un acteur qui n'a pas accompli encore la fleur authentique. Que si on ne l'accomplissait point, les facultés déclineraient à partir de la quarantaine, ce qui en serait la confirmation. Ainsi donc, l'ascension se poursuit jusque vers 34 ou 35 ans et le déclin se produit à partir de la quarantaine. Je le répète, si à cet âge l'on n'avait pas obtenu la consécration publique, l'on ne saurait estimer avoir accompli ses facultés. À cet âge donc, il faudra se montrer plus sévère encore pour soi-même. C'est l'âge où l'on doit être maître de ses expériences passées, mais c'est aussi le moment où l'on doit s'aviser des moyens qui assureront l'avenir. Si l'on ne s'était point accompli à cet âge, il serait désormais on ne peut plus difficile d'obtenir la consécration publique.
Vers 44 ou 45 ans, même si les facultés ne déclinaient point, puisque inéluctables les années vont passer l'une après l'autre, la fleur du corps et la fleur que perçoit l'œil du spectateur disparaissent. Passe encore pour un homme d'une beauté exceptionnelle, mais même joué par un homme passablement distingué, un sarugaku à visage découvert, l'âge venu, est chose pénible à voir. De toute façon, pour les yeux des spectateurs, il n'y a plus de fleur. La fleur qui, par aventure, se serait conservée jusqu'à cet âge, celle-là, certes, serait la fleur authentique. Et enfin, au-delà de 50 ans, Zéami nous dit...
À partir de cet âge, en règle générale, il ne saurait y avoir d'autre moyen que la non-interprétation. Il est un proverbe qui dit « Vieillie, la licorne elle-même vaut moins qu'une haridelle ».
Ce que disait Zéami sur habile et malhabile, ça me rappelle une anecdote vécue. François Florent, lorsque j'ai quitté son école pour rentrer au conservatoire, m'a donné des conseils et à un moment il m'a dit « As-tu des questions ?» Je lui ai dit « Bah oui, j'ai une question. » À chaque fois que je joue quelque chose pour me féliciter, les gens me disent « C'est fou comme tu es précis. » Et le problème, c'est que ce compliment me fait peur, mais je ne sais pas pourquoi. Il me dit « Bah t'as entièrement raison d'avoir peur. » Je dis « Mais pourquoi ?» Il me dit « Parce que dans précis, il y a précieux et il y a prévisible. » Et toi, il faut que tu travailles sur l'imprécis, sur l'imprévisible, sur l'improvisation, sur l'improbable, sur l'imparfait, sur l'impressionnant. Profite du conservatoire pour travailler sur le IM qui doivent précéder ton jeu. Ça peut pas faire de mal.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Quand j'étais gosse haut comme trois pommes, je parlais bien fort pour être un homme. Je disais « je sais ». Je sais, je sais, je sais. C'était le début, c'était le printemps. Mais quand j'ai eu mes 18 ans, j'ai dit je sais. Ça y est, cette fois je sais. Et aujourd'hui, les jours où je me retourne, regarde la terre où j'ai quand même fait les 100 pas. Et je ne sais toujours pas comment elle tourne. Vers 25 ans, je savais tout. L'amour, les roses, la vie, les sous. Tiens oui, l'amour. J'en avais fait tout le tour. Et heureusement, comme les copains, je n'avais pas mangé tout mon pain. Au milieu de ma vie, j'ai encore appris. Ce que j'ai appris, ça tient en 3-4 mots. Le jour où quelqu'un vous aime, il fait très beau. Je peux pas mieux dire, il fait très beau. C'est encore ce qui m'étonne dans la vie. Moi qui suis à l'automne de ma vie. On oublie tant de soirs de tristesse, mais jamais un matin de tendresse. Toute ma jeunesse, j'ai voulu dire je sais. Seulement plus je cherchais, puis moi je savais. Il y a 60 coups qui ont sonné à l'horloge. Je suis encore à ma fenêtre. Je regarde et je m'interroge. Maintenant je sais. Je sais qu'on ne sait jamais. La vie, l'amour, l'argent, les amis et les roses. On ne sait jamais le bruit ni la couleur des choses. C'est tout ce que je sais. Mais ça, je le sais.
C'était Jean Gabin qui nous chantait « Maintenant, je sais ». Dario Fo. Dario Fo, il nous écrit des choses superbes. Dans le gai savoir de l'acteur, c'est gai Dario Fo. Éric.
Les acteurs doivent apprendre à construire leur propre théâtre. À quoi sert l'improvisation ? À bâtir et tisser sur le champ un texte avec des situations, des mots, des gestes. Mais surtout, à ôter de la tête des acteurs que le théâtre ne serait que de la littérature mise en scène, ornée de décors et jouée au lieu d'être lue. Il n'en est rien. Le théâtre n'a rien à voir avec la littérature, quoi qu'on fasse pour l'y réduire. Brecht disait avec raison de Shakespeare « Dommage qu'il soit beau même à la lecture. C'est son seul défaut, mais il est grave. » Il avait raison. Une œuvre théâtrale valable, paradoxalement, devrait ne pas plaire à la lecture et ne révéler sa valeur qu'à la réalisation scénique. On me dira ce qu'on voudra, c'est en les voyant jouer sur les planches que des pièces comme le Don Juan ou le Tartuffe de Molière me sont apparues comme des chefs-d'œuvre.
L'important est d'apprendre à projeter sa voix, à la scander, à mastiquer les mots pour qu'ils soient le plus intelligibles possible.
En jouant, il faut essayer d'utiliser toutes les gammes possibles, mais toujours avec mesure et à propos. Et surtout, éviter le birignao.
C'est quoi le birignao?
Le birignao est un terme d'argot du théâtre qui désigne la diction plaintive, avec des ports de voix crispés et déplaisants, propres à beaucoup d'acteurs et d'actrices du théâtre distingués.
Ce qu'en France, on appellerait en gros le théâtre subventionné, c'est ça?
C'est ça. Tout jeune, quand j'ai commencé à fréquenter le théâtre, je suis tombé sur des dizaines d'acteurs de ce genre. Leur dégueulant dos s'accrochait à mes oreilles comme du papier tu mouches. Je croyais sottement que cette affectation gluante tenait à une technique analogue à celle des chanteurs d'opéra. Une pose de la voix qui oblige à des mines et des grimaces, une façon excessive de mastiquer les mots. Je refusais donc d'apprendre à placer ma voix correctement. Je sortais ma voix comme elle venait, je grimpais jusqu'à des fossés qui me dégondaient les tympans, ma gorge se grippait et je bafouillais en crachouillant à tel point qu'aujourd'hui, par comparaison, j'ai l'air de manquer de salive. Et immanquablement, je perdais la voix. Insolent et buté, je m'en fichais. Jusqu'au jour où, à Naples, alors que je jouais au théâtre Mercadante, j'ai complètement perdu la voix. Je ne sortais même pas un semblant de son. Je haletais comme un iguane qui aurait eu les amygdales. Le spécialiste de l'hôpital diagnostiqua une aphonie grave avec polype en formation sur les cordes vocales. 5 jours de mutisme absolu et la compagnie dut suspendre toutes les représentations de Naples. L'incident me persuada d'essayer de devenir un professionnel et j'ai commencé par apprendre à poser correctement ma voix. Aujourd'hui, je peux me permettre de hurler, de glapir des fossés à l'arraché, de parler au public pendant des heures, il est rare que la voix me manque. À moins qu'il ne me tombe dessus une bronchite agrémentée de pharyngite.
Il ne s'agit pas d'imiter servilement les gestes naturels, comme je l'ai souvent dit, mais de faire allusion, d'indiquer, de sous-entendre, de faire imaginer. Le théâtre est fiction et non imitation.
Quand je rentre sur le plateau, par exemple, j'ai besoin avant de me regarder dans une glace pour bien vérifier, pas que je suis intéressant, mais pour bien vérifier que lui, le personnage, est là. Sinon, je peux pas rentrer. Sinon, c'est moi qui rentre, c'est pas lui.
Patrice Chéreau.
Et en même temps, ce personnage comme ça qui m'effondre par moments parce que je le trouve absolument catastrophique. En même temps, il est drôle, mais il est pathétique. En même temps, c'est moi. Je veux dire, ça me ressemble. C'est ça qui est bizarre, qui est pas très agréable d'ailleurs, parce que à un moment donné, on aura envie de. Mais il y a une chose de lui. Dans sa une chose de lui, dans sa solitude, dans sa difformité, dans sa putasserie comme ça, dans sa roublardise, dans cette façon de vouloir, qui me ressemble. Il n'y a rien à faire, sinon je ne serais pas capable de le jouer.
Maintenant, Grotowski, qui vers un théâtre pauvre nous dit.
Le théâtre, par la technique de l'acteur, son art ou l'organisme vivant tend vers des motivations supérieures, fournit l'occasion de ce que l'on pourrait appeler l'intégration, l'arrachage des masques, la révélation de l'être réel, la totalité des réactions charnelles et psychiques. Cette possibilité doit être traitée de manière disciplinée, avec une pleine conscience des responsabilités que cela implique. Là, nous pouvons voir la fonction thérapeutique du théâtre pour les gens dans notre civilisation d'aujourd'hui. C'est vrai qu'un acteur accomplit cet acte, mais il ne peut le faire que par le biais d'une rencontre avec le spectateur, intimement, visiblement, sans se cacher derrière un caméraman, un costumier, un architecte de plateau ou une maquilleuse, en confrontation directe avec lui, et quelque peu à sa place. L'acte de l'acteur, écartant les demi-mesures, se révélant, s'ouvrant, émergeant de lui-même en opposition à la fermeture, est une invitation au spectateur. Cet acte peut être comparé à un acte profondément enraciné, un amour véritable entre deux êtres humains. Ce n'est qu'une comparaison dans la mesure où nous pouvons nous référer à l'émergence de soi-même par analogie. Cet acte, paradoxal et extrême, nous l'appelons un acte total. À notre avis, Il est l'essence de la vocation de l'acteur.
L'acteur est créateur, modèle et création, fondus en un. Il ne doit pas être impudique, car cela mène à l'exhibitionnisme. Il doit avoir du courage, mais pas le courage de s'exhiber, un courage passif, pourrions-nous dire, le courage d'être désarmé, le courage de se dépouiller lui-même. Ni ce qui touche la sphère intime, ni la mise à nu de tout son être ne doivent être considérés comme mauvais aussi longtemps que dans le processus de préparation ou dans le travail achevé, il reste un acte total de la sincérité charnelle. S'ils ne viennent pas aisément et s'ils ne sont pas le signe d'une décomposition mais de l'aveu d'œuvre, ils sont alors créatifs. Ils nous révèlent et nous purifient tandis que nous nous transcendons. Éric, vous connaissez cet exercice qu'Antoine Vitesse faisait au conservatoire qui s'appelle « Sous peine de mort ».
Oui.
Alors je vais l'expliquer aux auditeurs. Antoine Vitesse demandait à l'acteur, il disait « Voilà, c'est simple, tu es arrêté, disons, par la Gestapo, et ta seule couverture, c'est d'être acteur. » Alors la Gestapo dit « Très bien, vous êtes acteur, vous jouez quoi ? Donnez-moi votre CV. » Et on voit sur le CV « Phèdre ». Bon, cet agent de la Gestapo est un culte, il sait que Phèdre c'est une femme, il vous demande de jouer Phèdre. Sous peine de mort. Éric, vous êtes sous peine de mort.
Ah, cruel, tu m'as trop entendu. Je t'en ai dit assez pour te tirer d'erreur. Eh bien, connais donc Phèdre et toute sa fureur. J'aime. Ne pense pas qu'au moment que je t'aime, innocente à mes yeux, je m'approuve moi-même. Ni que du fol objet qui trouble ma raison, ma lâche complaisance est nourrie le poison. Objet infortuné des vengeances célestes, je m'abhorre encore plus que tu ne me détestes. Les dieux m'en sont témoins, ces dieux qui dans mon sang ont allumé... Ah,
c'est pas grave, je vous tue pas tout de suite. Et il se trouve que sur votre CV, je lis que vous avez travaillé avec Daniel Mesguich. Et donc, la même chose, mais dirigé par Daniel Mesguich, ce serait quoi?
Ah, cruel, tu m'as trop entendu, je t'en ai dit assez pour te tirer d'erreur. Eh bien, connais donc Phèdre et toute sa fureur. J'aime, ne pense pas qu'au moment que je t'aime, innocente à mes yeux, je m'approuve moi-même, ni que du fol objet qui trouble ma raison, ma lâche complaisance est nourrie le poison. Objet infortuné des vengeances célestes, je m'abhorre encore plus que tu ne me détestes.
Vous avez aussi travaillé avec Anne Delbé. Avec Anne Delbé, cette tirade, ça donnerait quoi?
Ah, cruel, tu m'as trop entendu. Je t'en ai dit assez pour te tirer d'erreur. Eh bien, connais donc Phèdre et toute sa fureur. J'aime, ne pense pas qu'au moment que je t'aime, innocente à mes yeux, je m'approuve moi-même, ni que du fol amour qui trouble ma raison. Ma lâche complaisance est nourrie le poison.
Bon, ça va, on lui laisse la vie sauve. Merci, bravo.
Je demande aux acteurs d'être là avec le maximum de disponibilité ludique.
Antoine Vitesse, encore et toujours lui.
C'est-à-dire que je renvoie aux acteurs les images qu'ils me proposent. Mais il ne faut pas croire que j'utilise simplement le matériau acteur. C'est le matériau action de l'acteur. Je leur demande de travailler avec leur envie de jouer. Seulement, j'utilise tout l'involontaire de ce jeu. Plus l'involontaire du jeu que l'involontaire de l'être. Le jeu m'intéresse plus que l'être. Pour prendre une comparaison dans la littérature et emprunter à Aragon, je dirais que le mentir des gens m'intéresse plus que leur vrai.
Et maintenant, pour continuer sur l'art de l'acteur, il m'a semblé bon de lire certains entretiens avec des très grands acteurs. Ici, des extraits d'un entretien accordé à la revue L'Outre-Seine par Valérie Dréville.
Je ne peux pas travailler dans le conflit, ni avec des gens qui ne sont pas ouverts sur le travail, sur la recherche. Quelque chose à atteindre ensemble, un climat fait de bienveillance. Par exemple, c'est très rare de retrouver la joie que j'ai pu connaître dans les répétitions avec Antoine Vitesse. Mais quand ça se retrouve, c'est extraordinaire. C'est un peu mon idéal, cette espèce de légèreté, de joie et de sérieux dans le travail. C'est comme ça qu'on travaille le mieux. Dans une espèce d'insouciance, d'innocence du théâtre. Il faut avoir soi-même, comme dirait un maître du Tao, l'esprit de débutant. Antoine Vitez l'avait à merveille. Ne rien savoir à l'avance, tout inventer, tout jeter sans réserve sur le plateau. Et mais nécessaire la confiance mutuelle avec le metteur en scène. C'est capital. Dès qu'il y a méfiance, ça bloque. Le sentiment d'avoir le champ libre pour proposer. Que le metteur en scène travaille à mon autonomie et non pas qu'il m'assigne à une place préétablie. Que les choses soient ouvertes d'un côté comme de l'autre. C'est l'amour finalement.
On continue avec Valérie Dréville qui dit justement « Le théâtre rend la vie comestible », disait Antoine Vitez. Mais elle a aussi travaillé avec Vassiliev, ce grand Vassiliev, vous aussi Eric d'ailleurs.
Oui.
Que dit-elle de Vassiliev ?
Vassiliev m'a fait comprendre que le centre du jeu n'est pas toujours en soi. Vassiliev travaille sur un théâtre très conceptuel qui se fonde aussi sur les émotions, beaucoup, mais qui ne part pas des émotions. Et donc il faut aller chercher très loin, en dehors de soi, des choses qu'on a l'impression de ne pas connaître. Antoine Vitez l'avait compris à sa façon quand il disait qu'on pouvait jouer des choses qui nous étaient totalement inconnues. Et ça m'a donné le goût de la distance. Distance de moi à mon personnage, par exemple, cette figure vers laquelle il faudrait tendre. Cette ligne infinie qui me sépare d'elle, c'est un gouffre, un désir. Et ce désir, comme il est projeté devant soi, il est incroyablement lumineux. Il contient beaucoup plus de lumière que dans un théâtre où tout ne ferait que remonter des profondeurs de l'inconscient.
Excusez-moi Marion, je suis vraiment désolée, j'en ai...
Oui, ne presse pas, ça fait une heure qu'on t'attend pour répéter. Tu sais, on n'est pas à ta disposition, ma chérie. Est-ce que t'as comme excuse aujourd'hui? C'est ton réveil qui a pas sonné?
Non!
Extrait du film Le Dernier Métro de Truffaut avec Catherine Deneuve et Gérard Depardieu, entre autres.
Je faisais une synchro.
Mais t'as pas accepté tous les boulots qu'on te propose. Tu fais du théâtre. Alors les synchros, tu les laisses aux copines qui ont besoin de travailler.
Elle aussi, elle a besoin de travailler.
Oui, mais oh merde.
Mais moi, je laisse rien à personne. Et je suis bien décidée à accepter tout ce qu'on me propose. Je fais des émissions de radio le matin. À l'heure du déjeuner, je fais des doublages. Et le soir, je frime à la Comédie Française. Et puis tous les jeudis aussi, je joue Molière devant les enfants des écoles. Et si on me propose un rôle au cinéma avec deux lignes de texte, je dis oui. Je veux réussir. Et pour ça, il n'y a qu'un seul moyen. Il faut tout accepter. Se faire voir de plein de gens et rencontrer chaque jour des gens nouveaux.
Il y a un autre extrait de Valérie Dréville qui me plaît beaucoup. Elle dit « C'est très important d'être jaloux quand on est acteur. Pas d'une mauvaise manière, mais de jalouser les autres. Si tu ne jalouses pas, tu te sens seul. Quand je vois Dominique Valadier, je suis horriblement jalouse. Je l'admire. Et je suis fier de cette admiration-là. » Qui jalousez-vous, Eric? Peut-être que vous jalousez Richard Fontana?
Non, oh, ben ce serait difficile parce qu'il est mort.
Vous pouvez pas jalouser les morts? Moi, j'en jalouse plein.
Ah ben si, 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 je jalouse beaucoup Laurence Olivier, moi.
Ah oui? D'accord. Il y a un texte sur Richard Fontana d'Antoine Vitez que je trouve sublime. Vous pouvez nous le lire? Vous n'étiez pas dans cette production d'Hamlet, vous étiez dans celle qui a suivi à la Comédie Française, mais dites-nous ce texte.
Ça s'appelle « Pour Richard, rêve ». La mort du prince Hamlet. Je voyais Richard, comme Richard Burbage, qui fut le premier, d'en dessous, là où dans notre théâtre se préparaient les apparitions du spectre, le point de vue du souffleur. Je gênais les machinistes et régisseurs, accessoiristes. Richard jouait la dernière scène de Hamlet, la fin des 5 heures, la fin de l'histoire, le début de la nouvelle histoire que Nouveau Saint-Jean, Horatio, qui fut toujours à la droite de son seigneur, va raconter, c'est-à-dire Shakespeare lui-même, pour les temps à venir, c'est-à-dire nous. Et soudain j'ai compris, le voyant sur la scène pleurer, et de tout près, mais à cette distance infranchissable que fait le jeu de l'acteur, j'ai su qu'il pleurait non pas seulement sur la catastrophe historique, le Danemark bafoué, le gâchis de toutes ses morts, Ophélie sacrifiée et sa propre mort, mais surtout sur la mort du rôle en lui. Quand de nouveau retrouveras-tu Hamlet? À tout moment de sa carrière, l'acteur peut se poser cette sorte de question. Jamais plus, peut-être, Hamlet ou Hermione ou Nina. Jamais plus. Alors ce sont les adieux de l'homme vivant à la créature imaginaire. L'acteur a ce privilège, il ne faut pas en user trop souvent.
La chanson des comédiens de Jean-Roger Cosimon.
Les comédiens, on dit souvent, savant du vent à la sauvette. Ils vont de scène en scène et partent en tournée. Et dès qu'ils sont vêtus des habits qu'on leur prête, ils deviennent Jésus, Harpagon ou Hamlet. Les comédiens ne seraient rien sans les lumières. Et comme ils veulent plaire et veulent être aimés, ils jouent même en plein jour, comme disait Molière, devant que les chandelles aient été allumées. Les comédiens, disent les gens, c'est plus changeant que Girouette. Ils jouent avec le mal, ils jouent avec le bien. Ils versent de vrais pleurs ou font la pirouette. Ils ont de faux bonheurs, ils ont de faux chagrins. Les comédiens, quand le soir vient, se reconnaissent. Ils savent qu'ils existent au creux de leur miroir, lorsque le fond de teint leur rend une jeunesse, qu'ils démaquilleront vers minuit moins le quart. Les comédiens, disent les gens, ont bien souvent des amourettes. À force de jouer, ils se prennent au jeu. Sans être Roméo, on s'éprend de Juliette. Juste le temps qu'il faut pour en souffrir un peu. Les comédiens, quand l'âge vient, quittent la scène. Et quand il leur advient de vivre de longs jours, sur cour ou sur jardin, tout seul ils se souviennent de ce fichu métier qu'ils ont aimé d'amour.
Guillaume Gallienne sur France Inter.
On continue, ça peut pas faire de mal, avec une interview d'un acteur qui était des nôtres à la Comédie Française et qui nous a quittés beaucoup trop tôt, Daniel Znik, qui a beaucoup travaillé avec cet immense auteur, Valère Novarina. Novarina appelle son travail de la danse parlée. C'est une appellation qui raconte magnifiquement ce qu'il fait du langage, c'est-à-dire que son théâtre implique une parole directement et généreusement donnée, sans artifice. Il veut qu'on voit l'acteur dans son état le plus brut, le plus dénué, le plus pur possible. Dans les mises en scène de Valère, c'est un rapport extrêmement simple d'humain à humain, face à face. On était comme devant la mer, en train de regarder des vagues qui arrivent les unes après les autres et qui, peu à peu, donnent un sentiment à la fois de gouffre et de plénitude. Un mélange des deux.
Mais ce que j'aime surtout communiquer en jouant Novarina, c'est un profond désappointement face au monde. Une remise en question de la force du langage, de son sens, de ce que ça veut dire de se tenir debout en tant qu'être humain, maintenant. Comment prendre ça? Comment se responsabiliser par rapport à ça? Qu'en faire?
La grande joie de notre métier, c'est qu'il passe par des milliers de chemins différents. Je me dis quelquefois, est-ce que ce sentiment de dispersion est vraiment construisant pour toi? Et je pense que oui. Parce que le seul instrument qu'on ait à pratiquer, c'est nous-mêmes. C'est une chance merveilleuse. Les contraintes ne sont pas aussi exigeantes que pour un danseur ou un musicien qui doivent entretenir de façon obstinée physiquement leur instrument. Notre travail à nous, à mon sens, c'est d'avoir les yeux ouverts, les oreilles ouvertes, et l'intelligence qui fonctionne, et la connaissance qui s'accumule. Et comment tout ça fait de l'humanité qu'on a envie de partager avec les autres.
Ce qui est très déstabilisant, c'est que les réactions du public sont fondamentalement différentes d'un soir à l'autre. Bien sûr, c'est une chose que les acteurs disent de tous les spectacles. Mais avec Novarina, c'est particulièrement déroutant. Ça va de l'agacement total à la communion. Laissons ce mot, je n'aime pas cette mystique à 2 francs 50. À une attention au moment présent, à une concentration extrêmement forte. Sur l'Origine Rouge, tous les soirs, au même moment de la représentation exactement, on sentait tous sur la scène que le public en avait assez. L'eau montait jusqu'aux narines, c'était trop. Et dans les 10 minutes qui suivaient, la tension revenait. La communication entre la scène et la salle reprenait, et ça repartait pour une demi-heure jusqu'à la fin du spectacle. Ou quand un spectateur vient te voir à la fin d'une représentation, qu'il te regarde comme ça dans les yeux sur le trottoir, devant le théâtre, qu'il reste muet pendant 30 secondes, puis te serre la main et te dit « Merci d'avoir dilaté mon âme » et s'en va. Est-ce qu'il s'agit de spiritualité ? En tout cas, il y a un partage humain extrêmement fort que j'ai rencontré assez uniquement avec Novarina.
Dans son texte pour Louis de Funès,
mon pendu,
il ne s'agit pas pour Valère de faire un hommage à Louis de Funès. Ce n'est pas aussi simple que ça. Mais je pense que le point de correspondance est une certaine forme d'animalité.
Monsieur le commissaire a perdu quelque chose. J'ai perdu mon pendu, il faut qu'on me le retrouve. Entendez, il faut qu'on me le retrouve.
Louis de Funès avait basé son comique sur les plus mauvaises pulsions de l'humain. Ces personnages sont les pires qu'on puisse imaginer. Les méchancetés, l'asservissement, les concupiscences, la haine du plus petit que soi, toutes ces forces humaines terriblement négatives et méchantes, il en a fait un animal. Avec une gestuelle, avec une perception de l'univers qui passe par la grimace, par un bruit qui n'est pas celui de la parole. Avec un corps insensé, toujours en survoltage, toujours en désir haineux. Et je pense que c'est aussi une chose profondément inscrite dans l'écriture de Novarina. Pas l'envie d'aller chercher les mauvaises pulsions, mais l'envie d'aller chercher l'animal chez l'homme. Il s'agit de faire l'animal avec de la matière verbale.
Le fantôme que j'ai vu dans le couloir tout à l'heure était un homme de fantômas déguisé en fantôme. Voilà. Et alors, désormais, tout fantôme aperçu dans le château sera arrêté sur le champ.
Pour parler encore de théâtre, ou plutôt de l'art de l'acteur, un extrait d'une interview toujours accordée à l'outre-scène par Anne Alvaro cette fois-ci.
C'est comme si chaque rôle t'amenait à te reconnaître, à reconnaître des choses que tu portes en toi, que tout humain porte en soi, mais que nous avons la chance ou la malédiction d'ouvrir. On joue avec quelque chose de très périlleux au fond, qui est une santé psychique.
Et toujours d'Anne Alvaro. C'est une citation de Sobel qui m'a tellement plu quand il m'a dit ça. « Ces frères voyants que sont les écrivains dramatiques. » Voilà. Si c'est un frère voyant ou si c'est un cousin qui sait écrire. Donc c'est à la hauteur de l'auteur. Et aussi encore une fois à la hauteur de ton courage. Le courage, ça peut paraître un peu grandiloquent, mais c'est pour dire le contraire de la paresse. Pour conclure, des notes de Klaus Michael Gruber, immense metteur en scène, qui nous a quittés il y a peu de temps, des notes qu'il a données à ses acteurs lors des répétitions de « Sur la grande route » de Tchekhov. Le rêve au théâtre, c'est vraiment l'émotion. Il ne faut pas oublier Brecht, car il avait raison, mais en même temps arriver à l'émotion, sinon le théâtre va mal tourner. Il faut une simplicité émouvante. Ne plus se contenter de belles mises en scène. Il faut que le théâtre passe à travers les larmes. Il faut cet abandon. Je suis d'une sincérité que je ne peux soutenir très longtemps.
Donner naissance à une seconde vie qui est tellement belle. Je n'ai plus envie de casser. J'en ai marre de tout ce truc allemand qui violente les lois. J'en ai marre du suicide de Kleist, de Büchner, de la folie. J'en ai marre du désarroi. À un certain âge, il faut assumer la forme. Le metteur en scène, c'est quelqu'un qui parle de la beauté. Il ne faut plus jamais pleurer sans cadre.
Tout en restant dans le théâtre, je m'essaie obstinément à expulser le théâtral. Le but consiste à perfectionner le mensonge. Je me suis faufilé à travers 40 mises en scène où l'on ne voyait ni n'entendait rien. Aujourd'hui, pour la 41e, je voudrais voir quelque chose. Oublions tout le galimatia des nouvelles découvertes de la mise en scène et parlons à nouveau comme l'on parlait autrefois sur une scène.
Aujourd'hui, nous devons faire de petites choses. simple, froide et claire.
Si vous le sentez, vous pouvez faire ce que vous voulez.
Inventons quelque chose de chuchotant entre la gloire et le désordre.
La parole, c'est parler seulement quand on a l'absolue nécessité de dire.
Parler pour survivre.
Savoir et tout oublier.
Savoir tout et le vivre quand même.
Ludmina, Michael parle de Gruber.
Oui, qu'est-ce que ça a d'unique et d'à part, qui ne ressemble réellement à rien? C'est ce regard qu'il a, justement, et cette écoute, qui vient du plus profond. C'est comme s'il il voyait à travers vous d'une façon... C'est comme s'il avait des yeux dans le dos, plusieurs paires d'yeux dans le dos, des oreilles au bout des doigts. Rien ne peut lui échapper de la personne qu'il a en face. Et la personne, pas l'apparence, évidemment. Et donc ça, c'est vraiment assez impressionnant. D'ailleurs, ses yeux sont incroyables. Et c'est cette sorte de grand non qui surgit du fond de la salle, non, jusqu'à vous faire trouver pourquoi oui, pourquoi ça va être oui à un moment. Et ça va être oui. Il est très sévère, mais très doux. Il n'y a pas volonté de casser pour obtenir et que les gens soient détruits. Au contraire, mais c'est pour vous accoucher de vous-même et vous dire que vous êtes beaucoup plus beau que vous ne pensez, vous êtes beaucoup plus grand que vous ne pensez, vous pouvez aller beaucoup plus loin que vous ne pensez.
Les échecs au théâtre ne sont pas de vrais échecs.
Jouez comme si cela devait être la première fois. Ce que vous faites n'est pas fait pour durer.
Même si ceci paraît idiot, je cherche à retrouver la fierté originaire. Cela va au-delà de la vanité.
Je découvre quelque chose. Soyez bon à votre égard. Vous avez trop la contrainte de représenter quelque chose, la beauté de l'être. Vous passez beaucoup trop rapidement là-dessus.
Il faut que les choses soient sans violence au théâtre. Poétique. Pas de théâtre dictatorial. Je voudrais que le théâtre se présente dans l'amour. Je ne veux pas être assommé.
Je n'ai plus envie de travailler. Je ne veux plus travailler que dans le luxe, c'est-à-dire avec des gens qui portent en eux la fierté dont je parle. Tout le reste n'est plus pour moi que du papier.
Là où le beau est, avec lui est aussi l'insolence. Sois simple et fier.
Tout n'est que phrase perdue dans la nuit.
Et soudain, tout commence du début. Des voix surgissent du néant. Tout commence à nouveau et meurt à nouveau. Tout est beaucoup plus anarchique. Il n'y a pas de règles pour les silences. N'ayez pas peur du rien. Vous ne devez pas faire du remplissage. Ce qui arrive, arrive.
Pensez à la plume du poète. Il ne savait plus comment poursuivre. Survient alors un bruit, et peut-être se remet-il alors à écrire.
Chacun respire, vit, a quelque chose à faire. Tout vit encore. Ne mourrez pas.
Ne vous laissez pas étouffer par mes bavardages.
Chut. Ayez un respect absolu de la pensée.
Seulement parce que j'ai vénéré la pitié.
Fatigué d'avoir été tant habité.
Ce qui demeure, c'est le poète qui le fonde.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia, aidé à la technique par Michel Mestre, et grâce à la préparation extraordinaire d'Estelle Gap et de Laura Elmaki. Merci Eric Genovese d'être venu.
Merci Guillaume.
Bonne soirée à l'écoute de France Inter et à la semaine prochaine.